c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors non, ce n'est pas une chronique littéraire, mais bien une chronique ludique. Pourtant, je vais vous parler de Voyage au centre de la Terre, le roman de Jules Verne, où l'on retrouvera le professeur Otto Lindenbrock, Axel son neveu, et Hans Bjelk, un chasseur d'Eider islandais. Alors Voyage au centre de la Terre est le nouveau jeu d'Ori Games, signé Alberto Milan, où votre but sera d'arriver au centre de la Terre et d'en ressortir par l'un des volcans. Un flip and write, un jeu à cocher avec des cartes qui s'annonce périlleux, à vous de trouver le meilleur chemin et de faire quelques découvertes pour gagner. Mais attention à toujours avoir de l'eau hein, sur vous, sinon eh bien vous pourriez mourir de soif. Alors partons immédiatement sur les traces de Jules Verne. À partir de 12 cartes d'orientation et 19 d'exploration, vous allez préparer votre chemin pour rejoindre le centre de la Terre. Chacun a son manuscrit, ou plutôt deux feuilles. Hein. L'une va représenter le plan composé d'une grille avec des lettres de A à I qui composent les rangées et des colonnes de 1 à 9. Et l'autre où il y aura bien les différents objectifs. Votre journal d'aventure est prêt. Placez également les trois personnages qui pourront vous aider dans votre périple et les cartes volcans sur la table. En début de partie, vous allez indiquer par quel volcan vous souhaitez arriver en mettant une flèche. Les trois autres, vous les marquerez avec des symboles. Ce sont ces mêmes symboles que l'on retrouve sur les cartes volcans qui peuvent mettre fin à la partie. Mais alors comment on joue ? Eh bien on va piocher une carte d'orientation et une carte d'exploration. Sur la carte orientation est indiquée une colonne ou une ligne. C'est sur l'une de ces cases que vous allez devoir dessiner votre exploration. Cette carte d'exploration va indiquer une galerie droite. Bah, dans ce cas, vous tracez un trait droit à l'horizontale ou à la verticale. Une galerie incurvée, il faut dessiner une courbe dans l'un des quatre coins. Une autre carte proposera de faire l'un ou l'autre, mais enlèvera la capacité du personnage de Axel. On verra les capacités un peu plus tard. Mais ces cartes d'exploration peuvent proposer aussi des découvertes, comme des champignons géants, des eaux, des poissons ou une source d'eau. Alors dans ce cas, il suffit de dessiner le symbole dans l'une des cases autorisées par la carte d'orientation. Alors si la découverte est sur le chemin du volcan, vous pourrez marquer des points en l'entourant et en reportant l'information sur votre journal d'aventure. Vous aurez des bonus aussi si vous faites trois découvertes différentes. Un roll and write ou flip and write en général, c'est un peu chacun dans son coin. Mais là, un peu comme dans Cartographers, si un danger apparaît, vous allez prendre la feuille de votre adversaire, à gauche ou à droite, selon l'indication sur la carte, et vous allez lui griffonner une case dans la ligne ou colonne, selon ce qui est indiqué sur la carte orientation. Du coup, il ne pourra plus rien mettre dedans. Dans le roman de Jules Verne, il y a trois personnages. On va les retrouver aussi avec chacun ses capacités. Ils sont là un peu pour vous aider, car il se peut que parfois la carte orientation ou exploration ne vous arrange pas. Ils pourront notamment vous permettre de faire un trait à un autre endroit, de faire une fourche pour bifurquer, ou encore d'avoir une découverte bonus. Mais demander leur aide, c'est pas gratuit. Ça vous fait perdre des points, et en plus, les autres joueurs ne peuvent plus les utiliser jusqu'à la fin de la manche. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les cartes d'exploration sont épuisés. Alors ensuite, une nouvelle manche commence et ils sont de nouveau disponibles, mais avant de faire une exploration, tous les joueurs doivent boire de l'eau. Vous commencez avec deux gourdes, mais l'eau c'est sacré, si vous n'en avez plus, vous êtes éliminé. Si vous êtes le seul avec de l'eau, bravo, là vous êtes le grand gagnant, car les sauts de passe sont morts, pas besoin de compter les points. Mais la partie peut se finir de deux autres manières. Alors parlons maintenant du réveil des volcans. Quand la pioche orientation est épuisée, l'un d'eux se réveille, par conséquent vous ne pouvez plus sortir par celui-là. Il va falloir trouver un autre chemin. Si tous les volcans se sont réveillés, c'est fini, vous n'avez pas réussi votre exploration, vous êtes obligé de rentrer par celui où vous êtes arrivé, les autres sont en éruption. Passez au décompte des points, sinon vous risquez de périr dans la lave. Mais je sais que vous êtes un grand aventurier et avez réussi à sortir par l'un des volcans. Dans ce cas, c'est 7 points de plus, bravo. Voyage au centre de la Terre propose également un mode solo, je vous laisserai découvrir. Un jeu qui rappellera un peu vos lectures de jeunesse. Il y a de la tension à chaque éruption de volcan. Vous croisez les doigts pour que ça ne soit pas celui où vous avez prévu de sortir. Alors aventurier, je vous invite à relever le défi. Et n'oubliez pas, l'eau, c'est la vie. D'ici quelques instants, on va retrouver Vianney du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Rétro Ludique.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le jeudi, vous le savez, c'est Rétro Ludique avec Vianney du magasin Terre de Jeux à Rennes. Salut Vianney.
Salut Mathieu, salut à toutes et tous.
Le magasin, je crois, a fêté un anniversaire là dernièrement.
Ah ouais, on fête longtemps l'anniversaire, on en profite, c'est un bon prétexte. En mai, ça faisait 10 ans qu'on était dans le local dans lequel on était, donc on a profité pour inviter tout plein de gens qu'on aime bien, qu'on a rencontrés dans les 15-20 dernières années, et puis du coup, on s'amuse à faire venir pour que les gens puissent rencontrer les créatifs qu'il y a derrière les boîtes de jeux, donc auteurs, illustrateurs, illustratrices et éditeurs, éditrices.
Alors c'est plutôt cool, ça va continuer, je suppose.
Ouais, pour l'instant, ça continue au moins jusqu'à mi-juillet.
Ah oui.
Et puis, toute façon, on n'est pas à l'abri que ça se prolonge avec d'autres gens qui viennent. C'est un prétexte, hein. L'idée, c'est juste de dire, comme c'est les 10 ans, on en profite pour faire venir des gens qui viennent faire la teuf avec nous. Voilà.
Alors, c'est qui les prochains sur la liste?
Eh ben, les prochains samedi, ce sera Maud Chalmel et Henri Carmarec. Alors, Henri Carmarec, bon, il est de la région, donc on a l'avantage de pouvoir l'avoir très souvent, mais c'est vrai que Maud est déjà venue quelques fois, mais c'est plus rare, parce qu'elle est de la région parisienne.
Bah oui, oui.
Et Maud Chalmel, c'est une illustratrice de grand talent, qui a fait beaucoup de lieux, et qui a travaillé avec Henri sur Sigil et Noxford, qui sont quasiment, si ma mémoire est bonne, les premiers jeux qu'elle a illustrés dans le monde du jeu.
Maud qui a réussi à illustrer un jeu de chiffres, hein, Splito, et c'est pas évident d'illustrer un jeu de chiffres.
Ouais. Ouais, et elle s'en sort très bien, je trouve ça très joli.
Franchement, c'est super beau. Allez, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, puisque c'est rétro-ludique. Et on va parler donc de Pour la Reine, la gamme For the Story de Bragelonne.
Pour la Reine, un jeu d'Alex Roberts à l'origine, qui était un jeu en Creative Commons, sous licence Creative Commons, c'est-à-dire un jeu où on peut tout à fait s'amuser à repiquer la mécanique, en refaire ce qu'on veut tant que c'est pas dans un usage commercial. Et effectivement, Bragelonne a démarché Alex Roberts pour le faire en français de manière tout à fait commerciale. C'est un jeu en fait assez particulier, puisque c'est un jeu qui va revisiter le genre du jeu narratif, donc ça, dans une mouvance qui est celle du jeu de rôle sans meneur de jeu, qui est une mouvance qui existe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et du coup, en gros, le principe de Pour la Reine, c'est de faire un jeu clé en main, avec une sortie immédiate, pas de lecture de règles, et un moteur de jeu qui va permettre de créer des histoires. Pour la Reine, en gros, c'est un deck de 60-70 cartes, je dirais, un truc comme ça, qu'on va mettre sur la table. Et au-dessus de cette pioche de cartes, il y a une quinzaine de cartes qui vont, à chaque partie, nous expliquer comment jouer. C'est-à-dire, on va piocher la première carte et elle va nous dire « Bah maintenant, vous allez jouer à un jeu qui s'appelle Pour la Reine. Et puis, la prochaine chose que vous allez faire, c'est piocher la prochaine carte qu'il y a sur le paquet. Et vous continuerez à chaque fois que vous aurez terminé de lire une carte, vous piocherez la suivante. » Et ainsi de suite. Et on va piocher le deck comme ça pour comprendre comment se joue le jeu, jusqu'à arriver à des cartes avec des questions, qui sont des questions qui vont motiver des réponses. Et ces réponses vont contribuer à créer une histoire. C'est un peu un fourre-tout, un truc où on peut un peu tout faire. Mais la grosse particularité de Pour la Reine, c'est d'axer sa thématique autour de trois grandes thématiques qu'on retrouve dans la littérature depuis une éternité. Donc l'amour, la haine et la trahison.
Ouais.
Et c'est particulièrement intéressant parce que ça peut être traité de manière tout à fait potache. Moi, j'ai fait des parties juste pour se fendre la gueule, rigoler, et on arrive à construire des histoires avec un quatrième degré et plein de conneries qui sont dites autour de la table, et ça fonctionne très bien. Donc ça reste relativement classique pour des jeux dans le genre, mais c'est aussi un jeu qui permet vraiment d'aller chercher de l'émotion, du petit frisson, des belles choses, de la poésie aussi. Et je trouve que le jeu le permet magnifiquement bien, de par ces thèmes-là, qui sont des thèmes très forts, et que si on a envie de prendre au premier degré, bah on peut faire des histoires très chargées, en fait. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Et en fait, pour arriver à ça, l'idée de Pour la Reine, c'est qu'on part d'un pitch de départ, où on va aller escorter une reine, dans un grand périple, et elle nous a choisi, nous, les joueurs et les joueuses autour de la table, pour l'accompagner parce qu'elle sait qu'on l'aime.
Ouais.
Donc déjà, on part du principe que tous les personnages aiment la reine. Mais la dernière question qui sera posée à la fin de la partie, c'est « La reine est attaquée, la défendez-vous ?» Et en fait, alors on peut se dire « Comment est-ce que c'est possible de ne pas la défendre ?» Puisqu'à partir du moment où on l'aime, ça va être compliqué. Mais en fait, toutes les questions qui vont venir entre ce point de départ et ce point final vont venir à mettre justement du grain à moudre pour qu'on puisse éventuellement soit arriver à effectivement ne pas la défendre pour une raison X ou Y, soit au contraire, réaffirmer notre amour et ne surtout pas la trahir. Mais c'est tout le jeu est là et tout le plaisir est là avec des questions qui vont venir étayer cette petite histoire. C'est des parties qui peuvent être très courtes, on peut jouer une heure. C'est des parties qui peuvent être très longues, on peut jouer 6 heures.
Ouais, ça dépend avec qui tu joues, forcément. Hein.
Ça dépend du nombre de cartes que tu vas jouer. Ça dépend avec qui tu joues, effectivement. Ça dépend du nombre de joueurs et de joueuses aussi. Parce que à 2 ou 3, on ira beaucoup plus vite qu'à 6 ou 7. puisqu'il y a plein de monde autour de la table.
Il y en a des fois, ils sont longs, hein. Ils sont longs à raconter leurs trucs, hein. Donc forcément, ça
prend du temps. Alors en plus, un des chouettes moteurs de Pour la Reine, c'est que les joueurs seuls et les joueuses sont jamais laissés en mode, voilà, c'est ton tour, à toi de parler, et puis tous les autres se taisent et on t'écoute. L'idée de Pour la Reine, c'est que c'est participatif. Pendant le tour d'un joueur ou d'une joueuse, on peut lui suggérer des idées, contribuer. C'est toujours le joueur ou la joueuse dont c'est le tour qui va devoir décider quel est le mot final, quoi. Mais on est vraiment sur une discussion, une collaboration, un échange pour créer une histoire. Et donc, il n'y a pas de but du jeu. Hein. Le but du jeu, c'est de s'amuser, de passer un bon moment et de créer une histoire. Pour ma part, ça fait partie des jeux qui m'ont énormément marqué, moi, dans les 10 dernières années, je pense.
Parce je m'en rappelle un truc, Vianney. C'est que je crois que tu l'avais classé dans tes meilleurs jeux de l'année dernière.
Ah, moi, je suis vraiment... pour moi, c'est un bijou. C'est très très rare de trouver des jeux qui permettent de faire raconter des histoires aussi de manière aussi large. C'est-à-dire, je disais, tu peux faire du potage comme du sérieux. La prise en main, elle est immédiate. Il n'y a pas de lecture de règles. Le prix, il est tout doux. Ça doit être entre 15 et 20. C'est vraiment pas très cher. Ça se joue avec n'importe qui. Tu peux jouer à ça avec des jeunes enfants. Ça passe, puisque tu n'iras pas explorer les mêmes sujets que si tu joues entre adultes. C'est vraiment sublimement bien édité. Et c'est, pour moi, c'est vraiment une grosse, grosse claque, quoi. C'est une belle manière d'introduire un tout petit peu à ce que peut être le jeu de rôle et la création d'histoires partagées, même si on n'est pas dans du jeu de rôle à personnages et tout ça. C'est vraiment, vraiment excellent. Alors... Et donc, ouais, on a eu la chance d'avoir Bragelonne qui a fait ça en français et qui, en plus, s'est fait plaisir. Parce que derrière, ils ont fait une gamme cette...
Donc la gamme For the Story. Alors moi, j'ai joué qu'à Pour la Reine, mais il y a eu Rituel, il y a eu Donjon et Siphon. Dernièrement, je crois qu'il y a un jeu là qui s'appelle Pour le Casse, voilà. Et alors celui que j'attends, moi, c'est
moi aussi.
C'est Audimat.
Ouais, moi aussi Audimat, il me fait grave triper. J'ai très hâte de faire des parties de ça. On peut en parler rapidement.
Oui, oui.
Gros, l'idée c'est que du coup, comme c'est une licence sous Creative Commons, Alex Roberts, l'auteur original, il a complètement ouvert la porte à ce qu'on appelle des hacks vulgairement. En gros, il a ouvert la porte à ce qu'il y ait énormément de créativité pour se réapproprier ce système, cette idée de un paquet de cartes avec des règles au départ, des cartes questions et puis une carte d'arrivée, pour que tout le monde puisse, tous les auteurs et autrices puissent se le réapproprier, le changer et en faire d'autres choses, quoi. Mmh. Et donc, il y a eu énormément de choses qui ont été faites en amateur, en amatrice. C'est gratuit. Si vous voulez aller sur Internet, c'est sur Force Drama. C'est gratuit et tout à fait légal, hein. Donc, faut pas se priver d'aller jouer à ça gratuitement. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites, un tel vivier de création, que du coup, Bragelonne, on a profité aussi pour proposer des versions alternatives. Elles sont toutes faites par un seul et même auteur qui s'appelle Nicolas Levif. Et du coup, l'idée, c'est que dans Rituel, par exemple, on va faire partie d'un culte. Ce culte aura des dessins qui vont changer de partie en partie. C'est la subtilité par rapport à Pour la Reine, où on a un setup qui est toujours identique. Là, Rituel, ça changera un petit peu à chaque fois.
D'accord.
Et à la fin, on devra dire si on trahit ou non le culte. Donc, on est un peu dans le même délire. C'est plus guidé en termes de narration. C'est plus dur de faire du décalé, même si c'est possible.
D'accord.
Mais on a quand même un thème un peu plus sérieux. Après, de toute façon, dès que les gens ont envie, on peut partir, hein, donc ça peut se faire. Mais comme on est très guidé, c'est un peu plus guidé, quoi. Donjon et Siphon, c'est totalement barge. Là, on fait du quatrième degré à chaque fois. C'est impossible de faire du premier. Ou alors, franchement, je serais curieux de voir une table qui l'a faite pour le fun de le faire, mais ça s'y prête pas. Donjon et Siphon, on est dans un univers médiéval fantastique. On joue les petits monstres des donjons qui s'occupent de nettoyer les canalisations des toilettes pendant que les monstres ils font caca et pipi. Et ben on va nettoyer tout ça. Et on cherche à être élu le chef du syndicat du sceau. C'est les gens qui s'occupent de ça.
D'accord.
Donc ça, c'est totalement barge, c'est ultra potache, c'est fait pour se marrer et ça marche plutôt très bien parce que les situations sont cocasses et rigolotes. La petite subtilité, c'est qu'il y a un principe où à chaque fois que tu réponds à une question, il va y avoir une seconde question qui sera posée à un autre joueur ou une joueuse.
Ah oui, d'accord.
En réponse un peu. Et ça, c'est très intéressant parce que ça crée vraiment un jeu de narration où parfois je vais choisir de répondre volontairement à une question par une réponse qui est celle que je choisis pour induire la question suivante à un autre joueur en lui disant « Eh voilà, je t'ai posé des billes, je t'ai posé des petites choses, maintenant réponds à cette deuxième question que moi j'avais vue en lisant la carte ». Et je pense que tu peux en faire des choses par rapport à ma réponse, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est très chouette. On se tend des petites perches et puis on essaye de saisir les celles des autres. Ça, c'est très, très cool. C'est déjà le cas dans Pour la Reine, mais là, c'est encore accentué, je trouve. Et Pour le Casse, c'est sorti trop récemment pour que j'essaye. Mais en gros, le pitch, c'est pour
le casse de trop.
Connaissent... Ouais, le casse de trop, c'est le pitch, c'est Usual Suspect.
Ouais.
Donc on s'est fait toper. On a fait un casse. On a braqué une banque ou ce qu'on veut. Je sais pas exactement le setup de départ, mais en gros on a fait un casse et on s'est fait attraper. Et on est devant la police et on raconte comment tout ça s'est passé. Donc c'est un espèce de flashback, donc vraiment Usual Suspect quoi. Je t'interroge et tu me racontes comment ça s'est passé.
Ah, parce qu'on choisit nos personnages, hein, si j'ai bien compris le truc, il y a plusieurs personnages comme le hacker, l'expert en démolition, l'infiltré.
Ouais, ils ont fait ça aussi dans le donjon et siphon, on t'attribue des personnages, ça fait partie des choses qu'ils ont rajoutées dans certains de leurs jeux. Et oui, je suppose qu'ils ont fait ça aussi. Après, de toute manière, ils le disent à chaque fois, c'est plus là pour aider que pour être une réelle obligation. Mmh. En général, on fait un peu ce qu'on veut. Et du coup, le prochain qu'on attend tous les deux, Audimat. Là, l'idée, j'en sais pas beaucoup plus que ça, mais l'idée, en fait, ça va être de jouer dans une émission de télé-réalité.
Exactement.
Et ça, je pense que ça peut être grandiose. Alors, pour le coup, je ne me vois pas y jouer premier degré, encore une fois. mais je pense que j'ai très hâte de jouer à celui-là, parce que je pense que je vais beaucoup m'amuser avec mes amis à jouer à ça.
Ah ben, je pense, ouais. Franchement, là, t'es dans une télé-réalité, dans une île déserte, dans une villa, dans un loft. Ah, un loft, tiens, bizarre. Et puis, là, il y a un œil, tu sais, sur la boîte. Donc, ça fait penser forcément à Love Story.
Bah oui, forcément, ouais.
Et alors, lequel est ton préféré parmi tous ceux que tu nous as parlé, là?
De toute manière, je pense que quelles que soient les versions et les hacks qui sortiront, ça restera pour l'arène, parce que je trouve qu'il y a... Bah, pour moi, il y a tout dedans, c'est-à-dire que ça assume le fait que créer des histoires, ça peut être quelque chose de beau, et je trouve ça vraiment génial. Et pour l'arène, moi, j'ai fait des parties magnifiques, vraiment hyper chargées, pas du tout drôles, et on a vraiment adoré, quoi, au même titre que quand tu lis une nouvelle ou que tu regardes un chouette film qui te touche. Et ben c'est la même chose, sauf que là en plus c'est créé par des gens autour d'une table qui sont des gens que tu connais ou pas, tes amis ou pas, mais tu partages un moment fort avec eux, et je trouve que pour l'arène, pour ça est vraiment super fort, parce qu'en très très peu de temps, en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes, tu passes en mode création, et puis après ça peut durer longtemps, mais t'as finalement vécu un tout petit moment et où c'est vraiment très très fort quoi. Et le jeu t'amène vraiment à le faire, enfin je suis pas spécialement boué pour créer des histoires, j'écris pas de bouquins, voilà, et je m'amuse à chaque fois.
Oui, parce que ça...
Parce que les cartes t'aident
au fur et à mesure.
Plaisir, quoi.
Ouais.
Donc, pour l'arène, pour moi, c'est un challenge à bleu. Je pense qu'il y aura difficilement mieux.
Merci beaucoup, Vianney. On se retrouve jeudi prochain. Jeudi, je crois que tu vas nous parler, il me semble, hein, si j'ai bien vu le planning, de Top 10. Top 10 qui est nominé au Spiel, oui.
Ça en sort sur l'actu.
Ah, voilà. Donc, c'est énorme, ça, en tout cas, pour Top 10.
Ouais, bah c'est extraordinaire, ouais. Enfin, moi je suis très content. On en parlera la semaine prochaine.
On va laisser le suspense.
J'espère que ça va gagner le Spiel après avoir foiré de gagner l'Asdor, même si j'y crois pas beaucoup.
Mais on en parle la semaine prochaine, hein. Salut Vianney.